Édouard de Lépine, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, ça va.
Ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre
Ouais.
pour continuer
Oui, j'étais très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai fini par voir parce que j'ai cherché ça pendant une quinzaine de jours là-dessus. Je dis, bon, c'est pas encore. C'est d'ailleurs pourquoi je n'en appelais pas.
Non, non, mais rassurez-vous, nous avons mis en ligne les choses. Je
Mais
crois
oui,
même,
apparemment.
oui, je crois même que le public est très satisfait. En tout cas, les statistiques me montrent que l'affaire a été déjà très écoutée, puisqu'en moins d'une semaine, plus de 800 personnes ont écouté cette intervention, ce qui est pas mal, puisqu'en
Pas mal.
réalité, il faut noter que cette rencontre dure presque 1 heure. Donc,
Ouais,
quand les
plus
gens
qu'une heure,
écoutent,
il me semble.
c'est bien la preuve qu'il y a un intérêt autour de ça. Donc, je voudrais encore vous remercier vraiment de
Non, c'est
nous
moi qui vous
permettre
remercie.
de faire toute cette étape. Et nous allons tenter un exercice aujourd'hui. C'est de commencer à parler de Césaire, puisque nous avons parlé de vous dans une première partie. Il s'agit de parler de Césaire. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur toute son actualité politique, culturelle et autres, dans la mise en commun de tous les textes que vous avez recherchés, de tous les écrits de Césaire sur lesquels vous avez travaillé. Et ce que je vous proposerai, c'est non pas qu'on fasse une comparaison, mais qu'on mette en parallèle, qu'on vous mette en parallèle et qu'on essaie chaque fois et à chaque événement rappeler quel âge vous avez. Parce que on ne se rend pas compte, mais Césaire a été votre prof et pour bien
Ça, je
comprendre, enfin, disons qu'il a été,
sais.
il a.
Oui. Il n'a jamais fait classe, moi. Quand je suis arrivé, quand César est arrivé à la Martinique, j'avais 7 ans, en 39. Et bon, j'ai pu le connaître, j'ai vu le voir au lycée en 43, quand je suis entré en 6e. Mais j'ai jusqu'à 45. Et bon, mais il m'a jamais fait classe. Mais en réalité, bon, c'est vrai qu'il a été mon prof, parce que je veux dire, tout ce que j'ai appris en politique, finalement, au départ, ça a été chez lui.
Oui, c'est ça. Dans les rencontres que vous aviez, notamment à Paris et compagnie.
Oui, comme ça.
Alors, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, on va commencer. Césaire, il a 18 ans. Il arrive à Paris
En 31.
en 1931 et il rencontre quelqu'un
Il rencontre Senghor, je
Senghor,
pense que c'est vraiment
qui sera
décisif.
décisif. Alors, parlez-nous de cette époque.
Non, moi je crois que c'est une époque extraordinaire, enfin pour un jeune nègre qui arrive, qui tombe sur un Africain à l'époque où l'Afrique n'est pas encore. Bon, l'Afrique c'est les barbares, c'est le monde de la barbarie, etc. Bon, sauf pour quelques grands savants qui ont commencé à étudier Senghor. Et qui ont commencé à étudier l'Afrique. Bon, l'Afrique, c'est un pays de nègres, c'est-à-dire un pays de trucs, de gens, non seulement qui savent ni lire ni écrire, bon, pour eux, dire et écrire en français, mais des gens qui vivent comme des bêtes, quoi, en réalité. Et bon, être nègre, c'est une honte, les gens ont honte. Mais ici, pas seulement en France, je veux dire, chez nous, à la Martinique, chez nous, à la Martinique, c'est vrai que je pense à l'atmosphère dans les classes, par rapport aux camarades qui étaient nègres, qui étaient plus noirs que les autres, ou un truc comme ça. Bon, c'est un truc assez dégueulasse. On oublie ça aujourd'hui. Mais bon, à Paris, évidemment, Césaire était extrêmement sensible à ça. Et la revendication de la négritude, c'est-à-dire de son appartenance, pas seulement à la négritude, mais à la négrerie, comme il disait à l'époque. Bon, c'est une chose. Mais nous, enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert ça beaucoup, 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 beaucoup plus tard.
C'est ça. Alors, on en a discuté tout à l'heure, il y a des gens qui disent que, parce que certains prétendent que Césaire aurait une descendance indienne.
Non, en tout cas, moi, c'est une descendance que je ne connais pas. Je sais que Césaire a consacré beaucoup, beaucoup de temps à la recherche de ses origines. C'est une chose sacrée pour lui, les origines. Et je n'ai pas. Si, il est vrai, par ailleurs, qu'il a une très grande admiration pour l'Inde et qu'il a une très grande admiration, en particulier pour Gandhi et pour le mouvement de libération nationale en Inde. Mais bon, je n'ai jamais entendu parler d'ascendance indienne. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes qui soutiennent ça, mais enfin, je ne connais pas d'exemple.
Par rapport à tout ça, lui, donc, il retrouve Senghor qui...
Et Senghor lui révèle l'Afrique. Senghor et les autres, parce qu'il n'y a pas que Senghor. Il fréquente beaucoup plus, si tu veux, à l'époque, les Africains que les Antillais. Et bon, c'est une chose qui est assez curieuse. Hein. De mon temps, quand je suis arrivé, disons, une vingtaine d'années plus tard à Paris, non, je fréquentais beaucoup les Antillais, mais assez peu les Africains. Mais lui, Césaire, il fréquentait beaucoup plus les Africains que les Antillais. Il a commencé à fréquenter les Antillais à partir, je pense, de 34 à peu près, c'est-à-dire 3 ans après. À son départ, il fréquentait beaucoup plus les Africains que les Antillais.
Il faut se rendre compte qu'à l'époque, là, Césaire n'est pas encore un élu politique, hein. C'est juste un étudiant
qui débarque
à Paris.
Un étudiant qui a 18 ans, il va intégrer l'école en 35, c'est-à-dire à 22 ans.
Mais est-ce qu'il a déjà des idées politiques, Édouard de Lépine?
Bon, c'est un type de gauche. Enfin, moi, je crois que, bon, il a toujours dit ça d'ailleurs. Hein, c'est un homme de gauche, c'est-à-dire, bon il défend les plus faibles. Bon. Il est un antiraciste, hein. C'est un révolutionnaire. Il veut pas être un révolutionnaire nègre, il veut être un nègre révolutionnaire. C'est ça son problème. C'est d'abord un nègre et puis un révolutionnaire. Mais c'est un homme de gauche, c'est évident.
36, 37. Oui.
Contrairement à ce qu'on a raconté, parce que j'ai vu, y compris chez les gens qui sont théoriquement des gens sérieux, nous raconter que Césaire était membre de la jeunesse communiste ou des trucs comme ça en 35, c'est la couillonnade, c'est pas vrai. Même s'ils produisent un texte, j'ai vu ça dans 2 ou 3 domaines, comme quoi il aurait été inscrit à la jeunesse communiste en 35, à l'école, à l'époque où il était à l'école normale supérieure, à la rue Dune. J'ai interrogé Mme Dominique de Santi, qui était la femme de son copain Jean Toussaint de Santi. J'ai interrogé, elle avait plus de 100 ans. Je crois qu'elle avait 101 ans ou quelque chose comme ça. Non, elle me dit, mais Jean Toussaint n'était pas communiste, n'était pas au Parti communiste en 1935. Jean Toussaint est venu au Parti communiste en 1943. Donc, tout ce qu'on raconte à propos, parce qu'il y a eu des faux, des trucs comme ça, moi j'en sais rien, mais enfin.
Pour vous, c'est pas vrai, quoi.
Non. À mon avis, Césaire n'a jamais été communiste avant octobre, disons, à mon avis, octobre 45.
D'accord. Mais Édouard de Lépine, 37, 38, 39, 39, nous sommes en période de guerre.
39, ce sera la guerre. Mais bon, c'est une période qui est très tendue parce qu'avant, il y a eu tous les problèmes de l'Éthiopie, l'occupation par les Italiens. Bon, il y a eu les manifestations à Paris contre le raciste. Les Jeux Olympiques de 36, etc., l'attitude de Hitler. Au moment de la victoire de Jesse Owens sur le 100 mètres, ou des trucs comme ça. Bon, c'est une période où le racisme est véritablement très puissant en France.
Période très exacerbée aussi.
Oui, c'est une période très exacerbée, on est à la veille. Bon, ça s'est un petit peu peut-être calmé après 36, c'est-à-dire avec la victoire du Front populaire en France. Mais 34, la période la plus dure probablement pour les nègres, je pense que c'est la période 34-36, 34-35.
La France est en guerre et Césaire, lui, est de retour à la Martinique.
Il est de retour à la Martinique, juste au moment où la guerre a été déclarée pendant qu'il était sur le bateau qu'il ramenait ici. Et bon, il arrive, en conséquence, c'est en pleine guerre. Mais enfin, Parce qu'en même temps que l'amiral Robert, mais l'amiral, on peut encore dire que c'est le régime de l'amiral, parce que en réalité, le régime de l'amiral Robert va s'accentuer à partir de septembre 39, pardon, à partir de septembre 39, quand bon, il y a la déclaration de guerre, mais sur l'interdiction du Parti communiste, bon, et la répression. Mais c'est, ça va devenir très grave à partir de 40, c'est-à-dire de l'occupation de la France par les Allemands en juin 40.
Mais Édouard, pourquoi il rentre à la Martinique?
Ben, il rentre parce que bon, il a fini. Enfin, en tout cas,
il fuit la guerre ou pas?
Non.
Parce que même si la guerre, oui, mais elle n'est pas déclarée. Mais enfin, la guerre, ça se déclare pas d'un coup. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des événements que vous connaissez qui font qu'on sent quand même
qu'il je crois qu'il en avait marre surtout et que bon, il voulait rentrer, il voulait plus continuer à faire des études, présenter l'agrégation. Il estimait qu'il en avait marre et il rentrait travailler, quoi.
Il va gagner sa vie.
Oui, c'est ça.
Il a déjà fondé famille ou pas à l'époque?
Oui. Il s'est marié deux ou trois ans avant le départ. Son aîné est né en, il me semble, en 38, il me semble. Bon, il a déjà deux enfants, au moment où il arrive à Paris, au moment où il revient à Martinique.
Et là, qu'est-ce qu'il fait?
Non, il est prof à l'école, il est admiré de ses élèves. Bon, c'est vrai que c'est une atmosphère très particulière, d'après ce que j'ai compris. Enfin, j'ai compris parce que j'ai des cousins qui sont un peu plus âgés ou des amis. Ils sont plus âgés que moi mais qu'il adore, c'est un truc. J'ai des amis ou des gens qui ne sont pas du tout des amis, en tout cas, c'est pas des amis. Je connais la mère d'un copain, la mère de Bernard Petit-Jean-Roger, qui a été son élève dans une bocagne au lycée Saint-Cher. Ces élèves l'adorent parce que c'est vrai, ils n'ont jamais eu de prof comme ça. Enfin, tous ceux que j'ai connus, hein, Roland Suvelor, Albert Dorion, Déris Denis, des gens que je ne comptais pas, ce n'étaient pas mes amis. Mais enfin, Dorion, c'était un cousin. Mais grâce à ce cousin qui était, il avait 5 ou 6 ans de plus que moi, je fréquentais beaucoup les types un peu plus âgés.
Et dans cette époque, donc, Césaire, lui, rentre à la Martinique où il fait cours au lycée Schellcher, c'est bien ça. Et dans cette même époque, la France, elle a perdu la guerre quand même.
La France a perdu la guerre et elle est occupée pratiquement depuis 40. Et c'est une période très très dure, très très difficile à la Martinique. Ça explique peut-être la lettre un peu dure, peut-être que je... Bon, à l'époque, évidemment, je considérais ça comme tout normal, mais on sait probablement un peu mieux aujourd'hui les circonstances qui font que l'Église a pu apparaître, sinon comme complice, mais enfin comme ayant pas suffisamment protesté non plus contre le régime de l'amiral Robert.
Vous parlez de la lettre qu'il a adressée à Varin. Vous pouvez nous dire deux mots sur ça, Édouard?
Non, c'est davantage un truc d'histoire que de politique, disons, de l'époque, quoi. Mais c'est l'histoire des rapports de l'Église catholique avec l'esclavage. Mais c'est davantage un travail d'intellectuel. C'est pas un travail politique, enfin, en tout cas. Je n'ai jamais conçu comme un travail politique. D'accord. À l'époque, peut-être que j'ai eu tendance à faire ça, pour d'autres raisons.
Oui, très bien. Alors, et toute cette période, c'est quand même une période où il ne se passe pas beaucoup de choses après sur le plan politique. C'est, disons...
Non, il ne peut rien se passer. C'est une dictature. Et c'est une dictature, les gens, il n'y a pas de journaux, enfin en tout cas les journaux d'opposition, ça peut pas, on ne peut pas imaginer ça, ça n'existe pas. Des meetings publics ou des trucs comme ça, il faudra attendre pratiquement juillet 43, c'est-à-dire la fin du juillet 43, il me semble que le premier meeting après le départ de l'amiral, c'est-à-dire pour le 13 juillet, et 43.
Mais dans toute cette période, les journaux, ils sont interdits.
Non, les journaux communistes, les journaux d'opposition, c'est-à-dire, bon, essentiellement le journal Justice, qui est le journal de la Fédération communiste de la Martinique, du PCF, du Parti communiste français.
Il est déjà mort, le frère Laliker, à cette époque.
Le frère Laliker a été assassiné en 34. En janvier 34, le 10 janvier 34.
Et le journal continue de paraître
oui,
avec...
Oui, le journal continue de paraître, même il y a un bond du journal, ça va décupler un petit peu parce que la défense d'Aliker va rassembler beaucoup de monde. Je veux dire, bon, les Becquets avaient mal calculé leur coup, quoi.
Mais... il n'y a pas de journaux interdits qui paraissent quand même.
Non.
Enfin, c'est, bon, y a pas de...
Il paraît qu'il y aurait eu, mais je suis jamais tombé dessus, des numéros de Justice clandestins. Bon, je suis jamais tombé dessus.
La période de l'amiral Robert, bon, on en a beaucoup parlé, je vous disais dernièrement que, et vous me disiez le contraire, hein, qu'on n'a pas beaucoup écrit sur cette période-là. Alors...
Ah non, il y a beaucoup de choses que, sur cette période-là. Il y a d'abord M. de Lucie de Fossarieux, dont je vous ai parlé, qui est un des premiers dissidents, enfin importants, enfin, bon, pas importants, non. Il était en terminale, enfin au terminal, non, une classe préparatoire.
Il faut préciser que ce monsieur avait été un élève de Césaire.
Il a été l'élève de Césaire et je me rappelle, je me suis trouvé une fois chez lui à Grand-Rivière et il me disait que bon. Qu'il n'avait jamais pu rencontrer Césaire, etc. Je lui avais dit, bon, si, est-ce que vous permettez que je téléphone à Césaire chez vous, que je lui pose la question. Il me dit, bon, non, il me donne le téléphone. Je téléphone à Césaire, je lui dis, je suis chez un béquet martiniquais qui me dit que tu ne peux pas recevoir, il y a toute une armée pour empêcher les gens d'accéder au bureau, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, maintenant, pas du tout, je n'ai jamais su ça. Alors, on dit, tu viens avec lui la semaine prochaine, quand il veut. Tu viens avec lui la semaine prochaine. Je crois qu'on a dû aller la semaine suivante le voir. C'était assez marrant parce qu'il était accompagné de son directeur, c'est pas un monsieur de Fossarieux, il était là. Mais bon, en tant que Césaire, un disque de l'épaisseur de la peau d'un avocat ou de la canne ou de trucs comme ça avec le béquet, c'est un truc, moi ça me paraissait un truc assez extraordinaire. Moi j'ai vu discuter de la banane. Les gens qui croient que Césaire ne s'intéressait pas, mais à l'époque ou après, au problème économique, moi, ça me paraît incroyable parce que bon, le type connaissait bien à la fois le prix. Bon, et c'est là que j'ai appris qu'il allait lui-même au marché à Paris. Il allait lui-même au marché et il connaissait parfaitement le prix, la différence entre un avocat de Martinique et puis un avocat du Brésil ou de l'Asie mineure. C'était un truc assez extraordinaire.
Et en fait... cette rencontre avec ce béquet, ça s'était traduit.
Je trouve ça, c'était vraiment formidable. Moi, ça m'a beaucoup.
Oui, vous disiez, Edouard.
Non, ça m'a beaucoup surpris. Pas amusé, mais ça m'a surpris. Moi, je vois que le type était... D'ailleurs, si c'était la manière même d'arriver, bon, je ne me rappelle plus comment ça passait. Enfin, il a... Je ne sais pas s'il n'a pas appelé Louison ou un truc comme ça, enfin, au départ. Mais bon, c'était très amical.
Ça s'est bien passé, donc, en réalité. Ah, oui, c'est ce que vous me dites. Alors, il y a quand même, il faut le dire, à cette époque, sa fameuse revue, qui est la revue Tropique, qui, elle aussi, est interdite. Alors,
oui, elle est interdite à partir de 43, mais la revue a paru quand même de 41 à 43, et ça a été interdit. Il me semble que le premier numéro, c'est d'avril 40.
Mais Tropique, par contre, il se passe aussi des choses dans ce journal. Alors,
ah ben oui, bon, c'est des choses nouvelles. Enfin bon, c'est vrai, il n'y a peut-être pas d'article provocateur comme il y en avait dans L'étudiant noir, bon, mais il y a des articles sur le monde noir d'une manière générale. Bon, comme on n'avait jamais vu ça à la Martinique, quoi. C'est une chose, une littérature tout à fait nouvelle. Dans le temps, il y avait eu des revues importantes, hein. La revue de la Martinique de Jules Monroe, certainement ça a été un truc extrêmement important, mais il y a rien qui, à mon avis, ressemblait si peu que ce soit à Tropique.
Et c'est dans cette période-là, justement, qu'il réunit autour de lui un certain nombre d'intellectuels.
Oui, enfin bon, je pense que tous ceux, effectivement, qu'il y avait comme intellectuels à la Martinique, ils collaboraient plus ou moins régulièrement, mais enfin, les deux principaux collaborateurs, évidemment, c'était Ménil et lui. Qui était prof de philo au lycée, et puis lui-même.
Mais c'est quoi? C'est un embryon de contestation? C'est un embryon politique? Oui, c'est quoi exactement?
C'est le premier élément de la révolution culturelle. C'est vraiment quelque chose de très nouveau à la Martinique, et je crois que ça joue un rôle considérable. D'ailleurs, bon, il y a un homme probablement à l'extérieur qui a bien compris ça, c'est Jean-Michel Place. Mais je sais que bon, pendant des années, bon, je cherchais je dois avoir une collection presque complète, mais de vieux numéros que je trouvais chez Gratian, que je trouvais chez Joseph Henry, que je trouvais chez d'autres profs du lycée, chez Mauger, son beau-frère. Et j'avais une collection complète de tout comme ça avait commencé comme ça. Je les ai là d'ailleurs jusqu'à maintenant.
Ils sont aujourd'hui dans votre bibliothèque. J'ai vu effectivement, oui. Vous avez montré quelques livres intéressants avec. C'est dans cette partie-là. Mais enfin, disons que vous avez là des documents, par exemple, je vois sous la main le document de la fédération, par exemple, la fédération communiste. C'est en quelle année?
C'est dans 1955, c'est la 11e conférence fédérale du Parti communiste, la fédération de la Martinique du Parti communiste français. La 11e conférence. C'est un texte vraiment très important, parce que c'est un texte qui continue, peut-être pas tout à fait dans l'esprit de 1945, il y a un petit peu de changement, mais c'est très clair, hein. Pour développer la lutte du peuple martiniquais pour l'égalité des droits et la paix, contre la misère et le chômage, c'est-à-dire, c'est le mot d'ordre central du parti. Et bon, la gestion par les martiniquais de leurs propres affaires, ou simplement la participation des martiniquais à la gestion de leurs propres affaires, c'est une provocation, ça apparaît comme un truc. C'est le point de vue, par exemple, d'étudiants de la... Enfin, pas de la section, mais du groupe de langue, ça s'appelait le groupe de langue, c'est-à-dire les étudiants communistes martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, malgaches, vietnamiens, etc., sénégalais, ils faisaient des groupes de langue. Leur groupe, c'était un groupe de langue, était à la fois membre du PCF, mais en même temps, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir de contact avec leur pays d'origine. Ils n'avaient pas le droit.
Édouard de Lépine, Dans toute cette période-là, dont on a parlé, 1955, on y reviendra, parce que 10 ans avant, Césaire, il a un super choc, c'est le choc d'Haïti en 1944.
Oui, ça a été une chose extraordinaire. En fait, je pense que c'est presque aussi important, probablement aussi important que sa rencontre avec Senghor en 31.
Vous pouvez nous en dire plus. Je sais que
Oui.
dans la préparation de cette émission, vous avez insisté en tout cas sur Haïti, où
Ah
vous
oui.
considérez que c'est vachement important dans sa
Ah
démarche.
oui, non, c'est...
Rappelons dans quel contexte il arrive en Haïti.
Non, non, il est arrivé en 44.
Oui, mais pour la mission, c'est une mission, il est dans une
Non,
mission.
il est dans une mission, c'est-à-dire, des gens qui avaient fait le voyage en même temps que Breton en 41, lorsqu'il partait, lorsqu'il laissait la France pour aller vers les États-Unis. Il y en avait un, le nom m'échappe, enfin, qui était un responsable des affaires culturelles à l'ambassade de France en Haïti. Qui a proposé de venir ici, de faire avec sa femme, hein, avec
Or mes bagages, quoi.
oui, enfin, armes et bagages pendant c'est une
Oui,
période,
c'est moi,
pour
c'est
4 ou
moi.
5 mois, ils sont partis en mai, je crois, ils sont revenus en décembre.
Et là, Césaire, il a un
Ah,
choc,
c'est
il
un choc,
rencontre.
vraiment. Je crois que ça a été extrêmement important. En tout cas, je l'ai vécu comme ça quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Césaire à partir de 51-52, quand j'étais étudiant à Paris. Bon, quand il parlait d'Haïti, c'était vraiment un choc. D'ailleurs, c'est pas les deux, peut-être pas les deux principaux livres, bon, mais. La tragédie du roi Christophe, d'une part, et le toucher l'ouverture, de l'autre. Bon, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement importantes pour lui, et je pense que ce n'est pas par hasard que ce sont si je puis dire, les deux premiers livres qu'il est écrit. Hein? Bon, il y a
Donc
les suicides avant.
le lien, vous le faites directement avec la période haïtienne,
Ah
quoi.
oui, bien sûr, le roi Christophe, c'est ça. Le roi Christophe, c'est le drame de Haïti, c'est le drame d'Haïti. Et Toussaint, c'est vraiment, à mon avis, ça doit être le livre de chevet des jeunes gens, comme ça l'a été pour nous quand ça a paru. Ça a paru au début des années 60, je pense. Moi, j'ai découvert, en tout cas, j'ai découvert assez curieusement, pas à la Martinique, mais en Algérie. Moi, à l'époque, c'est en Algérie que j'ai découvert ça. Mais.
Et vous, Édouard de Lépine, vous avez, parce qu'on essaie de cheminer, non pas pour comparer votre parcours à celui de Césaire, c'est pas ça
Non, ça n'a rien à
l'objectif,
voir.
mais de cheminer pour notamment retrouver la rencontre. Parce que je répète que vous avez travaillé pendant pratiquement plus de 20 ans de votre vie sur Césaire, sur les
Oui,
œuvres
oui, oui.
de Césaire, et un jour vous l'avez rencontré, depuis donc vous n'avez cessé, même si vous avez eu des
Ah
différences
oui.
idéologiques, vous
Non,
n'avez cessé de travailler sur.
j'ai rencontré depuis l'époque où j'étais étudiant communiste. Je me rappelle des histoires invraisemblables. C'était une réunion qui devait avoir lieu, je pense, à Vienne, en 53, où mon maître à l'époque, c'était un Guadeloupéen qui s'appelait Yvon Le Borgne. Nous étions retrouvés là-bas et nous étions gueulés avec. Les camarades français qui voulaient nous faire défiler derrière l'UJRF, ou en tout cas un truc de français, et nous avions refusé. Et quand j'avais parlé de ça à Césaire, avait fait semblant en tout cas de nous donner tort et de dire oh non, 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 c'était des trucs d'indiscipline, etc. En réalité, je pensais qu'il était profondément d'accord, quoi. Mais,
Ce qui n'était pas le cas.
hein. Non, à mon avis, non, je pense qu'il était d'accord avec le fond. Je pense qu'il était d'accord avec le fond, mais enfin, il n'encourageait pas à l'époque, en tout cas jusqu'à 1955, les actes de rébellion, parce qu'on avait tout le temps des engueulades avec la direction, enfin pas la direction, mais les responsables de la rue Saint-Georges, c'est-à-dire la section coloniale du Parti communiste français, qui était la rue Saint-Georges à Paris. Et enfin, on était au moins deux copains, un copain guadeloupéen qui s'appelait Le Borgne et moi-même, qui avaient souvent des engueulades avec les mecs, quoi.
Et cette partie est importante parce que c'est quand même dans cette période, en mai 1945, me semble-t-il, qu'il rentre à la mairie de Fort-de-France.
Hein? Non, non, c'est bien avant, c'est-à-dire 45.
Oui.
Hein? Non,
Mai 45.
mai 45. Non, mais quand il rentre en mai 45, il n'est pas, contrairement à ce qu'on a raconté, moi, encore une fois, j'ai vu dans des trucs sérieux que César a signé un truc, un acte comme quoi il était membre de la jeunesse communiste en 37, c'est de la foutaise. Ça, je peux dire, ou alors c'est des faux.
Alors, cet épisode-là, vous le racontez et vous précisez que, je ne sais pas s'il vous l'a dit ou bien si vous l'avez compris, mais vous dites Césaire, il est allé pensant qu'il ne gagnerait jamais les élections.
Non, 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 il me l'a dit, et je pense que il était absolument sincère. Bon, il croyait pas pouvoir gagner l'élection. Et avec les communistes, enfin, peut-être les militants, les gens qui étaient sur le terrain aussi, qui connaissaient mieux que lui, en tout cas, le sentiment de la population, parce que, à l'époque, je ne pensais pas du tout à ce genre de choses. Moi, j'étais content, tout simplement, il avait gagné les élections, mais bon, je ne pensais pas qu'il pouvait le perdre.
Mais il gagne élection sur élection. C'est-à-dire
Il
que
gagne
il gagne la mairie, il gagne
le
les
Conseil
cantonales.
général, il gagne l'Assemblée constituante.
Alors, parlez-nous de cette assemblée constituante, puisque c'est vrai que cette émission, même s'il y a des gens qui se souviennent de toute cette période, elle intéresse aussi, à mon avis, les tout jeunes. Il y a eu deux constituantes, c'est bien cela?
Il y a eu deux constituantes, et la constituante qui a été réunie en novembre.
Alors, rappelez-nous ce qu'était une constituante, Édouard.
Non, c'était la constitution française. Bon, la France sortait de la guerre, et bon, c'était pas, on ne pouvait pas garder tout simplement la charte de la Troisième République. Ça valait plus rien du tout. Il fallait faire une constitution. Et la première constituante qui s'est réunie de à peu près novembre 45 à juin 46, au mai 46 à peu près, ça n'a pas donné de résultat. Il a fait une deuxième constituante en 46 qui a adopté ce qui est devenu le truc de la Quatrième République par la suite. Et bon, mais les non. Ça a duré, mais la constituante, en fait, la constitution de la Quatrième République n'était pas non plus une constitution très solide. La preuve, c'est que ça a tenu 12 ans à peine, à 46-58. En 58, quand De Gaulle est arrivé, enfin, quand il y a eu la crise de mai 58 en France, la constitution a disparu et, vraiment, à la différence de la Constitution de la Ve République, et oui, il y a eu quantité de modifications hein, dans la Constitution de 58, mais elle est là depuis 58 et encore aujourd'hui, c'est-à-dire 58, 17, ça fait combien? 42 plus 17, 59 ans.
Et dans toute cette période, on le répète, il est élu maire, il est élu député et il
Oui,
est élu
il a été élu.
conseiller
Il a été
général
élu.
aussi.
Il a été élu député une douzaine de fois, hein, en 45, en 45, en 46, en 51, en 56, en 58, puisqu'il y a la dissolution au moment de la Ve République, 58, en 62, parce que De Gaulle n'a pas accepté les trucs, et il y a eu des élections en 62, il y a eu les élections de 67, les élections de 68, parce qu'après il y a mai 68 et par conséquent il y a une autre élection. En 68, en 73, il y a eu les élections. En 78, il y a eu les élections. En 80, il y a eu les élections après la chute, enfin la chute, après la défaite de Giscard d'Estaing. Il y a eu ensuite en 86, parce que ce qu'on a appelé la période de comment on appelle ça? C'est une période à laquelle il y a une majorité de droite un président de gauche.
La cohabitation.
La cohabitation en 86-88, il a été réélu en 88, il a été, et puis il a refusé à partir de 93 de partir, et il a appelé Camille, enfin Camille Darcien, il a souhaité que le parti désigne Camille Darcien comme candidat.
La fameuse réquisition.
La fameuse réquisition. Je pense que c'est une question dont j'ai beaucoup discuté avec lui sur le monde Larcher au Diamant, quand il m'avait dit que bon...
Mais nous y reviendrons, oui. Nous y reviendrons, parce que sur cette époque-là, nous sommes toujours vers les années 48, 46, 49, il s'est passé beaucoup de choses et il s'est passé une chose déterminante, c'est en particulier la conception que Césaire lui avait de la notion d'assimilation et de départementalisation. Il ne faut pas qu'on oublie ça, alors.
C'est vraiment la chose fondamentale. À mon avis, si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à Césaire. Moi, c'est la deuxième partie de ce livre que je viens de faire, « Nous sommes des nains sous les épaules d'un géant ». C'est Césaire et les communistes, une rupture qui vient de loin. Bon, comme ça fait presque aussi important que les 400 pages du truc, ça aurait fait un truc de 800 pages, j'ai préféré laisser pour une autre édition. Mais
oui, j'ai commencé à le lire, en plus c'est épais, c'est écrit petit. Ouais, hein.
Voilà, et donc bon, la rupture avec les communistes, si je puis dire, et avec la conception, la ligne du Parti communiste, je vous ai parlé de l'expression, on disait, il ne veut pas être... des révolutionnaires nègres, il veut être un nègre révolutionnaire. Bon, je veux dire, c'est vraiment une chose extrêmement importante, l'assimilation, l'esprit de Césaire.
Oui, alors, pour bien situer les choses, les communistes à l'époque disent, bon, il faut assimiler.
Il faut assimiler, et l'assimiler.
Et assimiler, ça veut dire, donner les mêmes droits, enfin bon, je veux dire...
Bon, alors, c'est l'interprétation que Césaire en a donnée, c'est ça, bon... Je crois qu'il a raison quant au fond. Mais à l'époque, il y avait très peu de gens qui pensaient que ça. Les gens étaient de Français, devenir des Français.
Oui, mais Édouard, Césaire peut-être met à ce moment-là justement la dimension politique. La dimension économique, c'est que les gens, ils veulent de l'assimilation parce que la situation est catastrophique. Quoi.
Être des Français.
Être des Français, aller à l'école, avoir des structures, être un département, c'est-à-dire sortir de l'histoire coloniale, même pas.
Ils veulent être des Français. Et c'est la départementalisation, c'est pourquoi Césaire a inventé le mot départementalisation, qui n'existe pas, c'est lui qui l'a créé. Le mot départementalisation, ça n'existe pas avant. Et quand il dit ça, ça veut dire quelque chose... un truc temporel, passager, c'est un truc lié aux circonstances, etc. Mais c'est pas être assimilé, c'est-à-dire au sens où la droite l'entend aujourd'hui, les gens comme Fillon, les gens comme Sarkozy, les gens, la droite classique, Wauquiez, etc., qui veulent que les gens deviennent des Français ou des trucs comme ça. À partir du moment où ils sont en France, ils sont des Français, etc.
Vous voulez dire qu'à l'époque, donc ils rentraient déjà la notion culturelle, la notion d'identité.
C'était fondamental. N'était pas y rentrer déjà, c'était la question fondamentale. La seule chose que les Martiniquais n'ont pas le droit de faire, c'est de renoncer à être eux-mêmes. Renoncer à être des nègres martiniquais, ou à être un peuple martiniquais, parce que cette évolution, il y a eu aussi une évolution, parce que, bon, après la notion de peuple, on a dit c'est un truc raciste, etc., bon, je veux être nègre. Bon, et les béquets, qu'est-ce qu'ils font? Bon, cette question-là n'a jamais posé de problème à Césaire, à mon avis. N'a jamais posé. Et bon, je crois que je le fais, j'ai fait la démonstration dans ce livre, hein, Nous sommes des nains sur les épaules de géants. Mais les textes que je publie, c'est les textes de Césaire que je publie. Le texte sur le cours Baril en 2001. Ou bien d'autres textes en 90, en 95, en 98, enfin en 2004. Bon, c'est un peuple martiniquais. De même, bon, alors c'est vrai que c'est un peuple où il y a des gens qui sont à l'intérieur de ce peuple, il y a des nègres, il y a des blancs, etc. Mais il faut un peuple enfin en tout cas, ce que nous souhaitons, ce que Césaire souhaite, c'est que ce peuple-là se reconnaisse comme un peuple martiniquais, c'est-à-dire ayant une culture propre, ayant adhéré à une culture propre, ayant la revendication de l'identité martiniquaise comme la chose fondamentale, à mon avis. À mon avis, c'est ça. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est la seule chose que nous n'ayons pas le droit de faire, c'est de renoncer à nous-mêmes. Malheureusement, je crois que parfois, y compris actuellement chez nous, peut-être, bon, tant mieux si c'est moi qui me trompe et que, bon, nous allons vers une assimilation, en tout cas, vers un renoncement à notre identité propre. Bon, je ne serai pas là pour vivre ça, à mon avis. J'espère que je ne verrai pas ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je crois que nous sommes fondamentalement des Martiniquais. Et que c'est dans cette direction-là, moi. Y compris les gens qui sont à droite actuellement. Je pense que, d'ailleurs, de ce point de vue, j'ai retrouvé un passage, bon, que j'avais peut-être un peu oublié, une sorte de relative autonomisation de la pensée de la droite martiniquaise, je crois. Je pense que j'ai vu des déclarations de gens, bon, qui sont des adversaires politiques, hein, mais monsieur, j'oublie son nom, c'est un des historiens de la droite martiniquaise actuelle.
Pensez à qui, Léopold Montieu, c'est pas lui, non? Montieu, c'est pas lui, non?
Montieu, Alfred? Non.
Yves Léopold Montieu,
c'est ça? Mais non, Yves Léopold, je comprends pas très bien. Honnêtement, c'est un copain, mais je ne comprends pas toujours ce qu'il écrit. En particulier, je viens de voir un article, je crois que c'est ce matin ou hier, sur ça, j'ai rien compris. Je vais l'appeler d'ailleurs pour lui demander ça. J'ai pas compris. Bon, mais peut-être qu'un Léopold...
Enfin, disons qu'il n'est pas historien, quoi.
Non, mais enfin, bon, moi je crois que les paysans qui sont là, ils ne sont pas historiens. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe pas un paysan martiniquais qui se prend pour un Français, à mon avis. Honnêtement, je ne crois pas.
Donc, cette question de l'assimilation, Édouard de Lépine, nous sommes bien d'accord qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale d'une part, mais c'est aussi un élément de discorde avec le Parti communiste.
C'est un élément de discorde. Alors, je crois que, bon, nous ne pouvons pas éviter ça dans une population quelconque.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nos communistes aujourd'hui, qui sont plus, disons, de la tendance indépendantiste, hein, ou nationaliste.
Attendez.
Je veux poser la question. Est-ce que vous pensez que nos communistes aujourd'hui, qui sont quand même plus indépendantistes qu'autonomistes, par exemple, est-ce qu'à l'époque, ils étaient pour l'assimilation?
Non, je ne sais pas. L'époque où ils étaient assimilationnistes, c'est l'époque qui va de leur création depuis... disons 1920 jusqu'à 1977-78.
Édouard de Lépine, est-ce qu'on peut comprendre par contre dans cette époque, enfin, en mettant en perspective la situation économique de la Martinique à l'époque, est-ce qu'on peut comprendre que les communistes ne comprennent pas cette notion, disons, culturel que veut rentrer Césaire? Parce que, je veux dire, ce schisme, à un moment donné, il est parti quand même de quelque chose. C'est pas un problème entre les hommes. C'est vraiment un problème de vision du futur
du pays. Bien entendu. Je crois que, bon, à l'époque, c'était vrai. Il y avait cette différence fondamentale entre, disons, l'immense majorité des communistes. Et puis, bon, je ne pense pas qu'un type comme Ménil était assimilationniste. Je pense pas que Ménil ait jamais été assimilationniste. Bon, il a été un des premiers avec légitime défense en 1932 à condamner l'assimilation lui aussi. Bon, mais enfin, il était beaucoup moins politique, en tout cas beaucoup moins nationaliste que Césaire. Je veux dire que, bon, en 1955-56, je crois que, à mon avis, Ménil n'a pas joué le rôle qu'on ne pouvait attendre d'un intellectuel comme lui, pour faire accéder, pour aider en tout cas, le peuple à se libérer de cette pensée assimilationniste. Si vous voulez, en 1927, quand les communistes envisagent de créer un parti communiste, enfin, une espèce de parti communiste français, c'est un truc invraisemblable. Jusqu'en 1934, ils envisagent de créer ça. On leur dit, mais non, il faut créer un parti. S'il y a un parti communiste, c'est un parti qui est pour l'indépendance. C'est le parti communiste qui leur dit, en 1927, en 1935, la même chose, en 1934, la même chose. Ils disent, non, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ils acceptent de devenir une fédération. Alors que, ils se considéraient comme fédération de 1920, alors que, dans l'esprit de la Troisième Internationale, c'est-à-dire l'esprit des communistes, ça ne pouvait pas exister. Dans l'esprit de Lénine, dans l'esprit de Trotsky, dans l'esprit de tous les grands dirigeants communistes de l'époque, ça ne pouvait pas exister. Ça ne devait pas exister.
Est-ce que c'est à ce moment-là que Césaire devient autonomiste ?
Non, je crois qu'il est autonomiste. Pratiquement dès qu'il rencontre Saint-Gon, dès qu'il rencontre l'Afrique, il comprend. Est-ce que Saint-Gon était... Moi, à l'époque, je me rappelle, moi, je me plantais complètement, d'ailleurs. Moi, je pensais que...
Il y a une histoire délicieuse, d'ailleurs, que vous racontez à ce propos.
Là ?
Il y a une histoire délicieuse que vous racontez, d'ailleurs, à ce propos concernant Saint-Gor, une fois qu'il était venu à la Martinique.
Oui, Saint-Gor, c'est vrai. Moi, je prenais pour un salopard.
Oui, vous n'aimiez pas cette relation de Césaire.
Non, moi, je prenais ce mec pour une espèce de traître et de salopard.
Pourquoi ?
Non, parce que je pensais que, Césaire n'avait rien à voir avec ce genre de mec. Et que...
Qui n'avait rien à voir avec ce type intellectuel type africain, c'est quoi? C'était quoi l'histoire chez vous? C'est quoi?
Je pensais assimilationniste, c'est-à-dire que j'ai le même problème que j'avais posé avec Césaire. J'étais de ceux qui pensaient qu'il pouvait accepter d'être à l'Académie française. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit ça. Il me dit, tu me vois, académicien français avec le béret, le truc, en uniforme, le pied au côté, en tout de vert vêtu, montant l'escalier. Bon, tout de même, tu charries, quoi. Saint-Gor, il a accepté. Mais Saint-Gor, c'est Saint-Gor. Bon, puis c'est vrai, Saint-Gor ne pouvait pas se tromper, parce que l'Afrique, c'est un continent, et puis le Sénégal, c'est un pays où il avait pu voir lui-même comment... Il est allé très tard en Afrique, hein, Saint-Gor, Césaire. Je crois qu'il est allé en Afrique, peut-être après 56.
Édouard, il y a une histoire croustillante que vous racontez qui fait rire chaque fois. C'est puisque vous parlez de cette relation qu'il avait avec Saint-Gor que vous n'aimiez pas du tout. Où un jour il recevait Saint-Gor au CERMAC. Racontez-nous à nouveau, je crois que vous étiez avec un petit groupe de révolutionnaires venus.
En février 1976. En février, quand il a invité... Il n'a pas invité Saint-Gor, d'ailleurs, c'est sûr, ça, comme après. Saint-Gor voulait venir à la Martinique. Et lui, il essayait de savoir comment il peut éviter ça. Comment il peut éviter que Saint-Gor vienne à la Martinique. Et Saint-Gor l'a devancé. Et Saint-Gor a décidé de venir à la Martinique. Mais Saint-Gor était président de la République. Bon, alors, il me dit, bon, c'est Senghor, c'est pas moi qui m'ai invité Senghor ici. Moi, il y avait un copain ici qui avait proposé d'inviter, d'inviter comment il s'appelle, le président de l'Afrique du Sud. Il avait, bon, moi, je me disais, bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais Senghor, enfin, quand il est arrivé, j'ai vu ça tout de suite après, hein, quand j'ai été dans le bureau de César pour lui dire que les types s'étaient comportés comme des totomacoutes, ces agents s'étaient comportés comme des totomacoutes.
Parce qu'on vous avait reconduit, disons, à la, quelques gros bras de la machine PPM.
Ils m'ont pas battu parce qu'ils connaissaient, ils connaissaient comme type de jeunesse communiste avant. Il m'a ménagé un peu, mais il a foutu des coups aux autres. Hein. Mais quand j'ai dit ça à César m'a dit, bon, ils t'ont pas beaucoup battu, je te vois gros, gras, vaillant. Il s'est foutu de moi, quoi. Il s'est foutu de moi. Mais c'était plaisant, mais non. Mais moi, j'ai acheté tout ce gars que je suis descendu de la mairie. J'ai acheté tout ce qu'il y avait comme bouquin de Senghor à la librairie antillaise. Et je me suis mis à lire Senghor. Bon. Et on m'a rendu compte que j'étais un imbécile, que j'avais jamais rien. En fait, j'avais jamais lu Senghor. En fait, je me racontais des histoires. Je racontais ce que les autres racontaient sur les histoires, ce que les communistes sénégalais. Et c'est ça.
Très bien. Donc, tout ça pour dire que finalement, sur cette question d'assimilation et de départementalisation, c'est une période importante qu'il faut relier à l'ensemble.
Oui.
Alors, Edouard, nous allons...
La rupture, c'est peut-être 35 à mon avis, mais la rupture politique, c'est 49. C'est-à-dire que quand Césaire, en décembre 49, dénonce à l'Assemblée nationale, annonce la naissance de sentiments nationaux martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais, etc., si on continue un peu à faire la politique que l'on fait en 49 en France. Je crois. C'est la première fois que, il me semble, dans les textes de Césaire, il y a ce truc-là.
Nous allons, comment dire, revenir après sur toutes ces époques. Nous allons arrêter cet épisode, hein, puisque bon, c'est vrai que on peut pas tout dire, et puis on essaie de faire des formats. On avait pensé faire deux émissions, mais je pense qu'on est parti pour en faire carrément une troisième sur cette partie, puisque nous sommes pour l'instant.
Moi je crois qu'il faut faire une grosse partie, tu sais, sur les rapports entre 81, c'est-à-dire le moratoire, tout ce qui est passé, hein, la création de la région, d'abord le refus de la droite de l'Assemblée unique, c'est-à-dire la CTM aujourd'hui, en 82, c'était la proposition de Césaire, qu'il y ait une Assemblée unique. Bon, on pouvait ne pas être d'accord d'ailleurs. Bon, moi je ne suis pas d'accord tellement sur la manière de concevoir l'élection de l'Assemblée unique. Moi, je pense qu'il faut une représentation à la fois proportionnelle, c'est-à-dire des courants politiques, et une représentation géographique, c'est-à-dire des communes, des trucs comme ça, qui soit un scrutin majoritaire.
Un montage qu'il faudra très probablement revoir, parce qu'on se rend compte, et ça nous permet de terminer cette émission, parce que j'aime bien chaque fois aussi avoir votre regard sur la façon dont les choses se passent, même si vous n'êtes pas, je dirais, aux affaires, mais enfin, je veux dire, vous avez votre regard d'historien, vous avez votre expérience. Je sais que, je vois par exemple votre bureau, on a l'impression que c'est le bureau de quelqu'un qui travaille tous les jours sur ces questions-là. Donc, on va terminer, Edouard de Lépine, cette deuxième partie, non sans vous remercier, mais ce que j'aimerais, c'est pour conclure, disons, c'est avoir votre regard quand même sur la réalité, la façon dont la Martinique fonctionne, la CTM, tout
non,
ça.
Non, ce samedi, nous avons une discussion, enfin, avec, nous étions trois ou quatre camarades, hein, enfin, trois ou quatre, il y avait là Camille, non, oui. enfin, on a décidé de ça. Moi, je crois que la question fondamentale aujourd'hui, ça ne peut pas être ce qu'on en fait aujourd'hui, où on cherche les sujets de désaccord. On n'est pas d'accord sur le TCSP, on n'est pas d'accord sur l'hôpital, on n'est pas d'accord sur d'autres questions,
l'université,
etc. Au lieu de chercher ce sur quoi on peut être d'accord, c'est-à-dire la quantité de pouvoir dont on a besoin ici à la Martinique pour pouvoir aller un peu mieux que nous n'allons là maintenant. Nous, c'est ça notre problème. Savoir ça. Bon, il ne s'agit pas de rompre avec la France, je ne crois pas. De ce point de vue, bon, je comprends parfaitement qu'il y ait des indépendantistes catalans. Bon, mais je ne suis pas d'accord avec eux quand ils pensent que la meilleure solution, c'est la rupture avec la Catalogne.
Mais vous pensez, Edouard de Lépine, que la situation de la Martinique aujourd'hui est liée à un problème de pouvoirs locaux?
Oui, moi je crois. Je crois malheureusement que je crois que les gens sont beaucoup plus préoccupés par des questions précisément de pouvoir local ou de pouvoir personnel. De pouvoir personnel, c'est-à-dire bon, leur truc d'être élu. Bon, peut-être parce que ça ne m'a jamais travaillé particulièrement, mais enfin, l'élection, ça me paraît par rapport enfin, à l'essentiel, par rapport à la maîtrise. De son histoire, la maîtrise des réalités de chez soi, ça me paraît très, très, très difficile. Nous ne pouvons pas considérer que nous sommes les seuls à avoir des idées justes, surtout, c'est pas possible. Il y a des gens à droite aussi qui ont de bonnes idées, comme il y a des gens à gauche qui ont de bonnes idées. Bon, je ne suis pas macroniste fondamentalement, mais bon, je crois que je suis un homme de gauche d'abord, mais je ne m'interdis pas de penser qu'à droite, il peut y avoir des gens qui ont aussi des idées correctes. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un accord entre nous, à mon avis.
Un accord global, oui. Mais vous pensez à quel type d'accord? Quand vous dites,
non,
vous pensez à la droite.
Non, pas
par exemple, est-ce que vous considérez aussi que Comim, par exemple, qu'on peut appeler, disons, les patriotes, seraient moins pourvus de personnes intéressantes? Vous parlez de la droite, c'est étonnant pour un homme de gauche.
Non, mais enfin, il n'y a pas que des imbéciles à droite, quand même. Moi, je pense que je ne tiens pas...
Non, ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez attaché à une discussion avec la droite quand aujourd'hui, majoritairement, la Martinique est de gauche. Enfin, je veux dire, MIM est de gauche. Le PPM est de gauche, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, j'ai téléphoné à Marie-Jeanne, personnellement, il y a peut-être 2-3 mois, me semble-t-il. J'ai essayé d'avoir, mais je ne sais pas... Pour avoir une discussion, Marie-Jeanne, j'ai de très bons rapports avec lui, enfin j'avais de très bons rapports avec lui, tout en étant opposé à lui. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas rencontré depuis, je ne sais pas, probablement ça fait 1 an ou 2, je ne pense pas que j'ai eu l'occasion de le rencontrer depuis 2 ans, il me semble. Je ne pense pas que j'ai eu l'occasion. Mais il faudra bien quand même. En tout cas, c'est ce que je souhaite que Letchimy rencontre Marie-Jeanne un de ces jours et qu'elle discute un petit peu. Moi, je crois ça. Mais ce n'est pas simplement Marie-Jeanne. De même, en 98, j'ai proposé qu'on vote Pierrot Petit à la présidence de la région. J'ai proposé en 98. C'est-à-dire bien avant ça. Bon, parce que je crois que je connais bien Pierrot. C'est venu 6 ans plus tard, puisque je crois que c'est en 2004, en 2005, qu'il a dû se rapprocher un petit peu du PPM, il me semble. Mais non, il faut pas. Les gens, c'est normal que dans une société comme la nôtre, il y ait des points de vue différents sur des questions importantes. C'est différent. il faut essayer de trouver le compromis. Ce que, bon, de grands communistes, hein, bon, je pense hein, aux communistes italiens.
Et le compromis doit être sur quoi, Édouard de Lépine?
Non, mais le compromis politique sur les questions, bon, ça peut être, je pense au mode d'élection de l'Assemblée, par exemple. On peut parfaitement essayer de trouver un accord là-dessus. Bon, on verrait, je ne dis pas que c'est absolument indispensable, hein, mais je veux dire que ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on arrive à déterminer la part de la proportionnelle et la part du scrutin majoritaire dans la désignation des responsables politiques, c'est-à-dire la représentation des tendances ou des courants politiques et la représentation du territoire, c'est-à-dire...
Oui, mais Edouard, oui. Enfin, je veux dire, vous êtes suffisamment éclairé pour savoir que sur ce point, le MIM, par exemple, avait donné son avis. Le MIM avait dit... qu'ils étaient contre cette proportionnelle,
non,
comme ça.
Non,
enfin, vous êtes au courant de ça. Enfin, je veux dire.
Ah non, non, le MIM n'a jamais. Enfin, pas à ma connaissance.
Non, hein. Je ne défends pas le MIM. Moi, je veux dire, je suis un observateur politique. Donc, je veux dire, non, même mais... quand nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses, je suis obligé. Marie-Jeanne a toujours dit que le système de proportionnel plus des 20%, que ça ne lui convenait pas à lui
mais
non plus.
Mais moi non plus, c'est... ça ne me convient pas.
Bon, alors si mais ça convient à personne, oui, mais si ça convient à personne, pourquoi nous l'avons et
non,
pourquoi
on
semble dire qu'il y a certains qui l'évoluent.
Non, bon, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, parce que bon, mais d'ailleurs, il me semble que c'était dans mon ancien blog, hein, j'avais un article sur ça. Là-dessus, bon, c'est un truc que je crois que je n'ai jamais transigé depuis 98, me semble-t-il, quand j'ai fait les premiers articles sur ça. Je vais d'ailleurs l'envoyer pour le blog.
Parce que c'est 20%, ça fausse tout, quoi.
Mais non, ça fausse tout. Ça fausse tout. Mais ce n'est pas simplement les 20%, c'est la représentation territoriale, c'est-à-dire la représentation des territoires qui sont historiquement constitués. Quoi. La commune, ce n'est pas une affaire qui est née il y a 20 ans ou il y a 30 ans, même s'il y a des communes qui sont plus jeunes que d'autres, Fonds-Saint-Denis ou bien Bellefontaine ou des trucs comme ça, mais une commune a une histoire.
Mais Édouard de Lépine, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on arrive à une espèce de moments à la Martinique où je veux pas dire qu'on patine parce que c'est pas le mot auquel je pense, mais j'ai l'impression qu'un certain nombre de choix politiques sont pas justes. Le choix aujourd'hui de la CTM telle qu'elle est, ça ne satisfait personne. Le choix du développement économique du transport aujourd'hui, on se rend compte. Le TCSP, il ne démarre pas parce qu'il ne peut pas démarrer. Il ne démarre pas parce que les gens ne sont pas d'accord sur le fonctionnement. 84 millions ou 80 quelques millions de déficit chaque année, ça peut ne pas convenir à un certain nombre de personnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on accumule dans des...
Non, c'est possible. Moi, je n'ai pas suffisamment discuté sur ça. Enfin, bon, je ne m'occupe plus de politique active, si je puis dire. Je n'ai pas les dossiers, je ne suis jamais plongé là-dessus. Mais je pense qu'il faut en discuter sérieusement. Pas comme on fait aujourd'hui. Tous les jours, il y a un article sur le TCSP. Bon, mais c'est les mêmes bêtises qu'on raconte là-dessus. C'est pas sérieux. Il faut se foutre là et puis décider qu'on va trouver quelque chose. Qu'on va trouver quelque chose dessus. D'autant que ça ne me paraît pas la question la plus difficile qui se pose. Moi, je pense que la question de l'agriculture martiniquaise, par exemple, qui est une question sur quoi, bon, j'ai travaillé dans le temps, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, mais maintenant, bon, il y a pas 30 ans d'ailleurs, il y a un peu moins de 30 ans, j'ai travaillé sur ça en 92-93, mais bon, je pense que, non, très honnêtement, je pense que c'est là notre problème, enfin, c'est un de nos gros problèmes, ici. Bon, la question de la mer, moi, ça fait maintenant presque 40 ans, en 78, qu'avec Bernard Petit-Jean Roger, nous avons conçu l'idée du port du Robert. l'idée du port du Robin, c'est-à-dire tourner la Martinique vers la mer résolument et tourner la Robin vers l'Amérique latine, vers les Caraïbes et vers l'Amérique latine. C'est-à-dire, à l'époque, il n'était pas encore question d'agrandir le truc de Panama. Le canal de Panama, ça n'existait pas, c'est venu en 90. L'idée du canal du Panama. Dieu sait si c'est encore plus important aujourd'hui avec le Canada, sauf peut-être avec le Panama, sauf peut-être que les Cubains ont bien compris ça aussi et qu'ils sont en train peut-être de vraiment baiser tout le monde là-dedans parce qu'ils vont faire un truc tel qu'ils vont bloquer tout sur Cuba et puis pour le Panama. Non, c'est des problèmes, on ne travaille pas dessus.
Et quel regard vous jetez sur la jeunesse martiniquaise? Vous avez des occasions de rencontrer la jeunesse aujourd'hui?
Non, malheureusement pas. Je crois que c'est un de nos gros problèmes. C'est un de nos gros problèmes, à mon avis, en tant que parti, au PPM. Autant nous étions dans le temps, enfin, en tout cas, moi, j'étais responsable de la jeunesse communiste très tôt. C'était une chose fondamentale pour nous, la jeunesse. J'ai l'impression aujourd'hui que ça n'existe plus dans les partis. Enfin, depuis, pour ce qui me concerne, enfin, je pense que depuis 2004, c'est-à-dire depuis 13 ans déjà, chaque fois que j'ai essayé de brancher les mecs sur ça, on n'est pas arrivé. Je dois avoir, je sais pas moi, une bonne dizaine de textes sur ça, sur la jeunesse, notamment sur la formation, à tous égards, formation politique c'est vrai, mais aussi la formation professionnelle, la formation des jeunes. Moi je crois que c'est notre gros problème. On va pas, si les gens continuent de foutre le camp comme ils le font maintenant, ils partent, et puis ils ne reviennent pas, parce qu'ils ne trouvent pas de travail sur place, parce qu'ils n'ont pas de formation qui leur permette de travailler sur place, je crois que ce sera foutu. Mais il me semble qu'il n'y a pas de réflexion sur ça. Il me semble. J'ai l'impression que les gens s'en foutent ou ils prennent leur parti. Moi, je suis frappé de ce que quand on discute avec un copain pour lui dire comme ton fils, comment peux-tu accepter ça comme ça? Il ne s'agit pas de dicter au bonhomme quelque chose, c'est pas ce que je crois. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre les jeunes quand même qu'il y a la possibilité de travailler à la Martinique. Il devrait y avoir la possibilité de travailler à la Martinique. Il devrait y avoir. Mais on ne me paraît pas s'orienter vers ça. Actuellement, je n'ai pas. J'ai l'impression qu'on ne regarde pas ça. Mais encore une fois, je reviens à la question vraiment fondamentale. Les deux questions fondamentales, c'est la terre et la mer. Les deux questions, la terre, l'agriculture, et puis la mer, développer la mer, c'est un truc, bon, vraiment, je pense qu'on a, peut-être la seule chose que je regrette, je pense que si j'avais été maire du Robert, on aurait vraiment peut-être eu aujourd'hui au Robert un port de la dimension du port de Fort-de-France, je crois.
Du Marais.
Non, du marin, c'est un petit truc de... Le marin, j'en ai discuté avec Rodolphe, au départ. C'est une très bonne chose qu'il y ait ce port du marin, qui est un port de plaisance. Pour la voile, la compétition, etc., pour le transport en Brésil. Mais enfin...
C'est un port de marchandises.
C'est un port de marchandises qu'il faut, un grand port. Alors, il n'y a pas d'autre place, me semble-t-il, à la Martinique qu'ici au Robert. Je ne me semble pas. En 1696, c'est-à-dire 60 ans après l'arrivée des Français ici, les types considéraient ce site, ce port, comme le meilleur pour un grand port. Puis bon, pour des raisons historiques, on a oublié ça. Mais c'est vrai que je pense que s'il faut qu'on y revienne à un moment ou à un autre, à mon avis. À mon avis, c'est vraiment fondamental. Et le maître de type qui est passé à ça, ici, c'est un type comme Bernard Bottigeon-Roger, de ce point de vue, Il est en avance sur son temps.
Très bien. Bon, ben écoutez, Edouard, on prend rendez-vous pour le troisième épisode.
Ouais.
Merci de vous adonner à cet exercice, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi fatigant pour vous, même si vous le faites avec beaucoup de plaisir.
Mais j'ai
l'impression quand même que il est important de vous écouter, de vous entendre, parce que vos mots sont éclairants.
Bon, merci, mais enfin, vraiment, je vous remercie de faire ça, mais je souhaite qu'on puisse accéder plus facilement que je ne l'ai fait sur ce truc-là, parce que j'ai cherché ça depuis quelques jours, hein, je cherche ça, mais je ne connaissais absolument pas. Non, et puis il faut dire aussi que bon, c'est un autre problème aussi, bon, les jeunes mecs, on demande ce qu'ils ont à la tête, par la couronnade, bon, c'est pas possible, parce que quand on demande, on propose au type... Un travail, c'est pas... Bon, je donne au type 40 euros de l'heure de formation, hein, pour
former Internet.
Oui, oui, pour former Internet et surtout l'informatique, enfin. Je paye 40 euros de l'heure.
Mais enfin, bon, comment dire, c'est... Vous savez, sur ce genre de choses, ce qui est, je vous ai montré un petit peu comment on fait, c'est vrai que ces technologies nouvelles sont tellement enrichissantes.
Ah, ouais, ouais.
Vous avez vu un peu comment on peut transférer tout ça.
Moi, y compris, je n'ai pas pensé à ça. L'aspect, d'autant que j'ai un problème ici. C'est-à-dire que ce truc-là, tous les jours, pendant 5-6 fois, peut-être 10 fois dans la journée, ça fout le camp. Internet, je suis coupé d'Internet, je n'ai pas d'Internet.
Alors, sur ce point, là aussi, en tant qu'observateur, je dois vous dire, Edouard, qu'il y a un super projet qui est en place sur la Martinique, puisque dans les 4 ans ou dans les 5 ans qui viennent, la Martinique sera en principe complètement équipée de fibre optique.
Ah, oui.
Et la fibre optique, c'est à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire le temps que ça prend pour pouvoir télécharger, qui vous prend énormément de temps, ben, je veux dire, on n'aura pas...
Moi, je perds actuellement, à mon avis, hein, entre 2 et 3 heures par jour, minimum. Perdre mon temps, quoi.
Mais quand vous êtes sur Internet, vous cherchez quoi?
Non,
vous regardez quoi?
Non, le truc...
consultations.
Bon, ce matin, j'avais un problème. J'avais un problème, c'était... attendez. J'avais un truc ce matin. Bon, c'est probablement, moi, l'erreur était de moi. Hein. Je ne me rappelle pas. Je vais voir si c'est revenu, entre autres.
Là, on est sur votre portable, c'est ça?
Oui, oui, sur le portable. On est sur le portable. Moi, j'avais ce matin un mot.
Vous faites les numéros pour pouvoir l'ouvrir. Et là, donc, on est en train d'attendre que ça télécharge. Vous avez Internet dessus, je suppose.
Oui. Ça marche. Ça marche. Depuis ce matin, sur mon Mac, il y a un problème. C'est incroyable. C'est incroyable.
En fait, je crois que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avec ce fossé numérique qui est en train de se creuser, il faut effectivement que les uns et les autres trouvent des solutions d'assistance. Quoi.
Et ça veut dire qu'il y a du boulot pour des mômes.
Oui.
Ça veut dire bon, un gosse qui décide de... J'ai un petit cousin, un petit neveu et de ma femme. Bernard Ayotte l'a appris. Un truc, il a fait un truc formidable, il a réussi. Il est parti il y a 2 ans et il a été chez Peugeot. Et Peugeot l'a pris, il vient de réussir là. Et bon, c'est un mec probablement, à mon avis, peut-être encore dans 2 ans, ce sera un des plus brillants vendeurs de bagnoles, à mon avis. Alors, si on va aller chez Renault Machin des Japonais, plutôt, ou avec Peugeot, moi j'en sais rien, ou avec Mercedes-Benz, un truc comme ça, j'en sais rien. Mais c'est un homme qui est vraiment formidable. Mais c'est un chef. Moi j'avais un truc qui était foutu. Un iPhone, un premier iPhone qui était foutu. J'ai jeté ça. Il m'a dit non, tu ne veux pas ça, tonton, je vais arranger. Il a pris l'arranger au papier directement. J'avais donné à sa soeur qui devait l'arranger, sa soeur qui a 17, 16 ans, 17 ans actuellement. Et puis, ils ont pris ça, ils ont arrangé. Bon, mais c'est des membres extraordinaires.
Mais c'est ce dont vous êtes en train de parler, je suppose que c'est aussi carrément l'intergénération qu'il faut maintenir.
Oui, non, il faut maintenir. C'est des membres. Et je trouve ça extraordinaire. Parce qu'en même temps, les mêmes. Bon, de l'autre côté, il y a probablement des petits farceurs aussi. Mais quand un membre est vraiment intéressé par ce genre de truc-là. Bon, le seul truc que je regrette un peu, parce que je lui ai dit ça, j'avais obtenu, Bernard Ayotte m'a dit que, on pouvait regarder si on pouvait lui donner un truc sur Porto Rico. Ça lui faisait un truc d'anglais et d'espagnol, plus de français. Moi je pense que c'est des trucs qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Si un nègre, d'ici à 20 ans, ne parle pas anglais ou espagnol couramment, en même temps que le français ici, c'est la merde. Dans 20 ans, à mon avis, c'est un truc... Moi, je pensais ça quand j'avais peut-être 40 ans, des trucs comme ça, je suis parti, hein. J'avais 46 ans aux États-Unis pour faire l'anglais. Puis après, j'ai oublié ça parce que j'ai fait de la politique ou des trucs comme ça. Mais bon, je pense que j'aurais dû continuer, moi. J'ai appris l'espagnol avec des Espagnols, avec des Espagnols, des Catalans, en 1953, parce que en plus j'étais mal foutu après le concours en mois de juin. Après le concours de l'école normale, la deuxième année où je présentais le concours, j'étais vraiment à plat. Je me suis mis à l'espagnol comme ça pendant près de mois avec des mômes. Il y avait un père là, avec un gosse qui devait avoir 15-16 ans. Et lui, le père, il devait avoir une quarantaine d'années. C'est un truc invraisemblable.
Très bien. Bon, ben écoutez, Edouard, vous passez une bonne fin de journée et on se donne rendez-vous pour notre prochain numéro. À très bientôt. Merci.
À très bientôt. Allez, à bientôt.